Bonjour Marcel Breton.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant à AgroParisTech, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Alors ce vendredi, comme la semaine dernière, comme il y a 15 jours, vous manifesterez pour le climat. Vous appelez les lycéens, les étudiants, les salariés à vous rejoindre. Quelle est l'urgence aujourd'hui ?
L'urgence, elle est de plusieurs niveaux. Elle est climatique. On connaît, je pense que j'ai même plus besoin de la répéter. On a eu dernièrement, cet automne, encore un quatrième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, qui nous rappelait l'urgence climatique, c'est-à-dire qu'on a plus que quelques années pour agir. Elle est d'ordre de la biodiversité, donc cet effondrement de la biodiversité, elle est d'ordre globalement de l'environnement, une crise environnementale sans précédent. Elle est aussi sociale et... Il ne faut, en tout cas, je pense qu'un des messages de ces grèves de la jeunesse, c'est aussi de ne pas dissocier les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, en tout cas surtout pas les opposer, mais montrer que la transition, elle doit être tout autant écologique, environnementale et sociale, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc c'est un enjeu de changer de façon de faire, de changer de mot d'ordre et surtout de passer à l'action. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on nous prévient de cette urgence. Maintenant, il est vraiment temps d'agir.
Justement, puisque vous abordez la question sociale, peut-être une des raisons qui fait qu'en France, le mouvement a moins pris qu'ailleurs, on va y revenir, c'est que l'attention est très focalisée sur le mouvement des Gilets jaunes, mouvement assez hétéroclite, mais il a démarré ce mouvement par une protestation contre la hausse des taxes sur l'essence, qui était présentée par le gouvernement comme une nécessité écologique. Est-ce qu'il y a une contradiction de fond entre votre mouvement et celui des Gilets jaunes ?
Non, parce que au fond, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous écolos, on va dire, on a tout à fait conscience que l'écologie punitive, c'est-à-dire celle que le gouvernement a voulu pratiquer, n'est absolument pas possible, ne peut pas continuer. Surtout parce qu'on est en train de punir et de viser des individus, de viser la population, en disant que c'est la population, les gens, qui sont responsables. Alors que, au fond, tout le monde doit faire sa part, mais je pense que ça, tout le monde commence à le comprendre et à le prendre en compte, à changer ses comportements, à changer son mode de vie, à faire attention. Mais aujourd'hui, il y a des responsables économiques et politiques qui n'ont jamais été vraiment pointés du doigt et qui doivent prendre leurs responsabilités très rapidement. Et c'est ce que veut dire aussi ce mouvement des Gilets jaunes et c'est ce que commencent à dire les ONG, les communautés scientifiques, en tout cas toute la population qui se sent concernée par ces questions-là, commence à dire « mais en fait, on est prêts ». Il y a eu cette fameuse campagne cet automne de tous ces youtubeurs, artistes, etc., qui ont dit, dont l'objectif était de dire « on est prêt », mais à un moment, c'est aussi au gouvernement de dire « est-ce que vous êtes prêt à agir ? Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'acte de façon assez importante, globale, urgente pour répondre à cette crise ?»
Sur la question politique, plus un seul parti aujourd'hui, quelles que soient les élections, n'ose se présenter sans avoir un programme écologique. Est-ce que la bataille des idées n'est pas déjà gagnée, justement ?
Elle met du temps à rentrer dans les mœurs et dans la société.
C'est une façade seulement, ces programmes ?
Alors souvent, c'est le greenwashing. Il peut aussi bien être mené par des entreprises que par des partis politiques. Après, c'est aussi une question de les mots, mais de toute façon, ça c'est, on va dire de façon plus générale, que ça soit sur des questions sociales ou environnementales ou économiques, il y a la différence entre les grands discours et les actes. Aujourd'hui, quand le ministre de l'environnement, enfin de la transition écologique et solidaire,
François de Régie, ouais.
Il y a deux semaines, nous disait. Qu'il voulait marcher main dans la main avec nous, que la secrétaire d'État Brune Poirson nous disait que dans les murs du ministère, nous avions des alliés. C'est très difficile à croire, en tout cas, parce que la politique menée jusqu'à aujourd'hui ne le montre absolument pas.
Par exemple, qu'est-ce qui vous pose problème dans l'action gouvernementale ou dans la non-action gouvernementale du gouvernement aujourd'hui ?
La réduction des ambitions, par exemple, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de façon globale, en fait, toutes les mesures qui sont prises montrent à quel point on est peu ambitieux en cette matière, que ce soit les questions d'agriculture, que ce soit les questions d'énergie, que ce soit les questions de transport. On est vraiment très loin d'un changement global de société, de production et de consommation, mais qui doit être entrepris de façon globale. Ça doit d'ailleurs dépasser juste le carcan du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça doit concerner l'ensemble de la société. Du coup, l'ensemble des ministères, l'ensemble des décisions politiques, parce qu'il y a un changement qui doit se faire de façon systémique.
Alors la semaine dernière, vous avez été rejoint à Paris par Greta Thunberg, c'est cette jeune Suédoise de 16 ans qu'on a vu interpeller sans ménagement les grandes de ce monde à Davos, à la COP24 en Pologne. Elle est un exemple à suivre.
En tout cas, elle est inspirante. Elle est inspirante par son action. Elle a entrepris toute seule à 15 ans. Elle avait encore 15 ans en août de faire cette grève. Elle est inspirante par ses mots qui sont d'une très grande simplicité, de dire à quoi ça sert d'aller en cours si je n'ai pas d'avenir d'ici quelques années, ou à quoi ça sert d'aller en cours pour devenir scientifique, pour comprendre le changement climatique. C'est ce qu'on lui a souvent reproché, mais va en cours et deviens scientifique, apprends le changement climatique. Oui, mais à quoi ça sert si la communauté politique n'écoute pas la communauté scientifique, si on a des personnages comme Trump, mais aussi des personnages comme nos dirigeants politiques qui depuis des décennies n'écoutent pas beaucoup plus les scientifiques. Et elle a cette façon de dire les choses très directe, avec une simplicité qui est
Est-ce que c'est pas trop simpliste, un peu ce qu'on lui reproche aussi. Est-ce que c'est pas trop simple, justement?
Ben, malheureusement, quand elle dit qu'elle a pas envie qu'on ait pitié ou qu'on ait peur, ou elle a envie qu'on panique, elle a raison. Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Donc, elle a raison en disant qu'il faut aller droit au but et agir. Du coup, moi, je trouve que ces mots, en tout cas, sont plein de sens. Et si ça peut inspirer beaucoup de monde, tant mieux.
Alors le mouvement qu'elle a lancé, vous l'avez dit, d'abord toute seule en Suède, a eu effet boule de neige dans son pays, puis ailleurs en Europe, on a notamment à Bruxelles d'importantes manifestations. Est-ce que c'est une espèce d'Erasmus du militantisme écologique qui est en train de se créer? C'est encourageant le fait que ce soit un mouvement qui soit transnational, au moins européen pour l'instant?
Oui, tout à fait. C'est encourageant parce que on voit à quel point ce mouvement dépasse très largement les frontières. Que la question écologique, environnementale, climatique s'étend bien au-delà de nos conditions, de nos cultures, que ça concerne tout autant des pays d'Afrique, d'Amérique. Il y a un mouvement aux États-Unis, il y a un mouvement en Australie. On a aussi des mouvements qui commencent à se former en Afrique, en Inde. Et du coup, on a toute cette communauté Fridays for Future qui s'est construite un peu autour de cette idée très simple de faire grève les vendredis et de se dire, mais en fait, ça nous concerne tous. Et Internet a aussi des avantages parfois, c'est de nous connecter. Et du coup, la semaine dernière, on avait du coup Greta de Suède, des jeunes de Belgique, mais aussi d'Allemagne, de Suisse, de Luxembourg, d'Angleterre, qui sont venus. Et on a pu discuter, on échange, on continue à échanger très régulièrement et à vraiment créer ce mouvement parce qu'on a conscience que tous ensemble, avec nos communautés dans chaque pays, on commence à devenir une force très importante et massive. Et quoi de plus fort qu'une jeunesse qui se bat pour son avenir?
Pour l'instant, malgré tout, c'est encore un peu timide en France, on a l'impression. Est-ce que ça commence à prendre? Et surtout, pourquoi est-ce que la France est un peu à l'écart pour l'instant de ce mouvement?
Plusieurs raisons, à mon avis. On a eu un automne qui a été très actif par rapport à d'autres pays, avec quand même trois grosses marches qui ont beaucoup rassemblé. Un hiver un peu plus calme et... C'est vrai qu'il y a le contexte social,
par exemple des gilets jaunes,
mais aussi pour les jeunes, pour les étudiants, la réforme du bac, la réforme des frais d'inscription qui mobilisent aussi sur ces questions-là. Évidemment, l'idée c'est absolument pas de les opposer. En général, c'est souvent malheureusement les mêmes responsables qui sont responsables des crises sociales et environnementales. Du coup, c'est de voir comment on peut coexister et mener ce même combat. Après, donc on prend un peu de temps à se lancer, mais pour le 15 mars, on attend quand même une très grosse mobilisation.
Alors justement, vous appelez à une grève mondiale pour le climat le 15 mars. Ce sera l'occasion de montrer que les jeunes Français ne sont pas à la traîne.
C'est ça. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de villes qui ont commencé à créer des groupes pour se mobiliser le 15 mars. Et donc c'est vrai qu'on attend une très forte mobilisation ce jour-là.